Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression afin de vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif au travers de rencontres inspirantes, de partage d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, place au féminisme, et plus particulièrement au nouveau féminisme. Dans son dernier livre, Le nouveau féminisme, combat et rêve de l'ère post-Weinstein, paru aux éditions Odile Jacob, l'auteur ou l'autrice Barbara Pola renseigne sur quelques-uns des courants féministes les plus actifs, tout en démontrant comment ces courants sont complémentaires et œuvrent en fait pour toutes les femmes. Barbara Pola, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un parcours hors norme dont la richesse, la diversité et l'excellence inspirent. Barbara Pola, vous êtes médecin, vous avez été femme politique, aujourd'hui engagée dans l'art et la culture et très investie dans la cause des femmes. Vous êtes l'auteur ou l'autrice de plusieurs ouvrages, dont le livre qui nous réunit aujourd'hui, « Le nouveau féminisme, combat et rêve de l'ère post-Weinstein » aux éditions Odile Jacob. Vous démarrez votre livre avec cette phrase de Chimamanda, autrice de la maxime « Nous sommes tous des féministes ». Cette phrase commence comme suit. « J'ai décidé d'être désormais une féministe africaine heureuse, qui ne déteste pas les hommes, qui aime mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir. » Barbara, comment l'affaire Weinstein, suivie des hashtags MeToo et Balance ton porc, ont fait évoluer la question du féminisme en France et dans le monde? Et quels sont les visages du féminisme d'aujourd'hui?
Alors, la manière dont l'affaire Weinstein a fait évoluer la question du féminisme, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Je veux dire, les hommes, les femmes, ici, ailleurs, les jeunes, les vieux, c'est devenu un sujet absolument majeur de société. Grâce à ce hashtag MeToo qui a traversé l'ensemble de notre planète. Et donc, c'est un moment extrêmement intéressant pour revoir les féminismes qui existent depuis longtemps, bien sûr, qui n'ont pas attendu le hashtag MeToo, mais aussi tous ces féminismes qui ne sont pas nommés encore aujourd'hui et qui constituent tous ensemble ce que j'appelle le nouveau féminisme. Le nouveau féminisme, c'est cette extraordinaire émergence, la nécessité absolue de parler de ce thème qui nous concerne toutes et tous.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le nouveau féminisme aujourd'hui? Quelle est la définition du nouveau féminisme? Est-ce que ça veut dire qu'elle se rassemble? Toutes les tendances féminismes se rassemblent dans un seul courant ou est-ce qu'il existe toujours des courants différenciés?
Il existe indubitablement des courants différenciés, mais le nouveau féminisme inclut toutes les femmes. D'accord. Et je pense que chaque femme, en fonction de son propre vécu, va adhérer de façon plus claire à l'un ou à l'autre des multiples féminismes. On pourrait presque dire que chaque femme a son féminisme évident, affirmé ou silencieux. Un féminisme qui fait, sans porter de pancarte, un féminisme très engagé, un féminisme vraiment pour les autres, pour certaines autres ou pour toutes les autres femmes. Donc, en fait, le nouveau féminisme, c'est vraiment une manière de dire ça nous concerne toutes et tous les féminismes sont intéressants pour les femmes qui y adhèrent et donc pour toutes. Et ce que je cherche à faire, c'est montrer comment les différents courants en fait se complètent, s'additionnent, sont en synergie même plus qu'en addition, et éviter absolument que les courants s'opposent les uns aux autres de manière à effectivement à ce que le féminisme s'épanouisse. Je dirais que le nouveau féminisme est un féminisme d'épanouissement.
D'accord. Donc, alors, la mode se fait le bras armé du féminisme avec en tête de proue Chimamanda, que vous citez beaucoup dans votre livre. Donc, c'est une icône, enfin, elle est devenue vraiment une icône pop. Hein. En 2012, au cours d'une conférence TED, elle dit « We should all be feminists ». Nous sommes tous des féministes. Elle a été reprise en 2014 par Beyoncé. Et en 2015, tous les lycéens suédois de plus de 16 ans se sont vus remettre un exemplaire de « Nous sommes tous féministes ». Vous reprenez dans votre livre 15 suggestions de Chimamanda pour une éducation, un manifeste en fait pour une éducation féministe. Si vous êtes d'accord, j'aimerais profiter de votre éclairage sur chacune de ces suggestions.
Mais avec plaisir. En plus, j'adhère à l'ensemble de ces 15 points. J'ai 4 filles moi-même. Et en fait, Chimamanda, elle a écrit ce livre en réponse à une amie qui lui a demandé « Mais quel conseil me donnes-tu? Comment dois-je élever ma fille ?» Et vraiment, c'est des préceptes qui valent pour le monde entier.
Alors, le premier précepte, c'est « Sois une personne pleine et entière ».
Oui, ça veut dire qu'en tant que femme, bien sûr on est une femme, mais on est autre chose aussi. Et on n'est pas juste une mère, ou juste une belle femme, ou juste quelqu'un qui est engagé. On est tout, c'est-à-dire une personne pleine et entière. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut même oublier qu'on est femme, parce qu'on est un individu, parce qu'on a une pensée, parce qu'on a des rêves et des désirs et des actions. Et donc la personne pleine et entière, c'est ça. C'est sortir du stéréotype femme, quel qu'il soit, parce que les stéréotypes sont différents selon où on est, pour être qui on est, une personne pleine et entière.
Le père de ta fille ne t'aide pas, il fait ce qu'il a à faire à sa manière.
Alors ça correspond à un point que j'ai beaucoup développé dans les livres précédents. Je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup des problèmes qui existent entre le père, la mère, l'enfant, et le fait que très souvent la mère a l'impression que toute la charge pèse sur ses épaules, c'est qu'en fait elle ne partage pas. En tant que mère, on est tellement attaché à nos bébés qu'on a beaucoup de peine à les partager réellement. Donc, en fait, on cherche à partager, par exemple, les tâches domestiques. Mais pour moi, partager, c'est partager le gâteau. C'est pas partager ce qu'on n'aime pas particulièrement faire. C'est d'abord partager ce qu'on a de plus beau. Or, ce qu'on a de plus beau, c'est nos enfants. Et on a tendance à déléguer et pas à partager. C'est-à-dire qu'on dit au mari ou au père des enfants, bon ben le dimanche après-midi c'est toi qui vas t'occuper d'eux, tu vas les amener faire ceci ou cela. On explique comment il faut faire, comment il faut mettre la couche, pas sur la tête mais entre les cuisses. Mais en fait le vrai partage, c'est à un moment donné de donner l'enfant et de, à la limite, s'en aller. Et donc c'est
de laisser faire,
ouais. Surtout pas lui dire, parce que on n'est pas père, ouais. On est certainement chacune de nous la meilleure mère pour nos enfants, mais lui, il va être le meilleur père si on le laisse faire. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup d'hommes dans le cadre de mon livre écrit sur les hommes qui m'ont dit cette chose qui, je trouve, est un diagnostic terrible sur comment on gère ça. Ils m'ont dit « Je suis devenue père à part entière le jour où j'ai divorcé. » C'est-à-dire que finalement, l'absence dans l'interaction avec l'enfant de la mère donne au père la responsabilité, la joie, tout ce que nous vivons tout le temps, d'être entièrement avec l'enfant. Donc, je crois que c'est ce que Chimamanda veut dire quand elle dit « Le père de tes enfants ne t'aide pas. » Il ne va pas vous aider, mais il va faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'être père. Donc, il suffit en fait de lui laisser la place pour qu'il prenne cette place de père. Et à ce moment-là, par voie de conséquence, évidemment, ça va vous aider. Mais ce n'est pas le moteur du départ. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'être aidés.
N'invente pas les rôles de genre, ne dis jamais à ta fille parce que tu es une fille.
Alors, je réponds à Chimamanda en disant, moi quand j'allais au parc et que mes filles tombaient, je disais, pleure pas, t'es une fille. En fait, c'est par le goût de l'inversion des stéréotypes. On ne doit pas faire les choses parce qu'on est une fille ou parce qu'on est une femme, si ce n'est aimer les autres femmes et les comprendre et les soutenir. Mais fondamentalement, ce qu'on fait, on doit le faire. Et ce qu'on doit dire à nos filles de faire et d'être, c'est qui elles sont. C'est de sortir de en fait, à la limite, de sortir de la donnée biologique fille ou femme pour devenir entièrement qui elle est, de qui, bien sûr, participe le fait que notre corps est un corps de femme. Je veux dire, ça, c'est la réalité, sauf si on veut changer la réalité, parce que vraiment, cette réalité ne nous convient pas et qu'on se sent homme à l'intérieur ou garçon et qu'on veut changer le corps. Donc, ça, c'est l'exemple jusqu'au boutiste de dire... voilà, ne sois pas d'abord une fille, sois d'abord qui tu es. Donc, qui tu es, tu vas intégrer le fait d'être une femme si tu te sens d'être une femme. Et puis, si tu sens autre chose, eh bien, tu intégreras autre chose. Mais c'est d'abord la pensée, l'âme, l'esprit, l'intérieur qui nous constitue à l'intérieur d'un corps. Et foin de toutes les... préceptes sociaux. Ceux-là, on les oublie, qui disent que les filles doivent faire ceci et les garçons doivent faire cela. Ça, on oublie, on inverse à la limite. Et puis ça fait rire et ça allège le poids des stéréotypes.
Écarte la notion de permission.
Alors, j'aurais même aimé aller plus loin et dire mettre un 16e point d'ailleurs dans l'éducation des filles, c'est d'apprendre à désobéir, mais ce qui est juste l'inverse de écarte la notion de permission. Je pense que la meilleure éducation qu'on peut donner à nos filles et à nos garçons, mais là on parle de filles, donc je parle de filles, c'est de leur apprendre à désobéir. Alors bien sûr, désobéir, ça peut être dangereux. Donc il faut les accompagner dans l'apprentissage de la désobéissance. Il faut leur donner la main pour traverser la rue, parce qu'il faut faire attention, bien sûr, aux dangers qui les entourent. Mais de désobéir aux préceptes est un point fondamental de l'accomplissement de la petite fille en femme. Se salir, prendre des risques accompagnés, ne jamais demander la permission, parce que personne n'a à nous permettre. C'est nous qui devons décider de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons faire de notre vie, y compris d'ailleurs nous soumettre si c'est ce que nous avons envie de faire, mais pas de demander la permission. Et donc, une petite fille qui désobéit, au lieu de demander la permission à sa maman, eh bien, il faut que nous la félicitions. Bravo de désobéir, bravo d'apprendre à désobéir et à t'affirmer toi-même qui tu es face à l'immensité des contraintes sociales, parentales, éducatives, scolaires. Et ainsi, tu deviendras toi-même dans cette richesse que Chimamanda appelle.
Apprends à ta fille à aimer lire.
Oui. Alors, pour quelqu'un qui écrit, j'écris beaucoup, évidemment, le livre, c'est quelque chose de très important. C'est un monde dans lequel on essaye de partager des pensées et apprendre à lire. Derrière apprendre à lire, il y a apprendre à penser. Et si l'école nous apprend à apprendre, si la société nous apprend à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, en fait, où est-ce qu'on apprend à penser ? On apprend à penser dans les livres. Et j'aime énormément ce concept de Hannah Arendt qui dit que le contraire de la violence, ce n'est pas la douceur, c'est la pensée. Et le contraire de la violence, donc de la violence qu'on fait subir aux autres, mais aussi de celle qu'on subit, parce que la violence, elle vient quand il n'y a pas la pensée. J'ai pris un taxi hier, et le chauffeur de taxi, on commence à parler, et il me dit, vous savez, les baffes, elles viennent quand on n'a plus les mots. Les mots, on les apprend dans les livres. Et les mots, ils sont là pour exprimer la pensée autrement que par la violence. Donc, apprendre à lire, c'est apprendre l'autre, c'est apprendre les autres cultures, c'est s'ouvrir au monde, c'est apprendre une autre manière d'interagir avec les autres. Alors, tout ça, c'est très bel et bon, mais moi, je n'ai pas réussi à apprendre à mes filles à lire. Voilà, peut-être parce que j'écrivais et que c'était leur manière de désobéir. Bravo mes filles, vous avez désobéi à maman pour affirmer que vous n'êtes pas des écrivains, c'est pas ce qui vous intéresse, mais autre chose dans la vie.
Mais elles peuvent aimer lire.
Oui, oui, elles s'y mettent petit à petit après 40 ans.
Alors, apprends-lui à questionner les mots.
Oui, les mots sont lourds de sens. Et les mots, on les dit, on les entend, et souvent, justement, on ne pense pas les mots. Et les mots deviennent eux-mêmes une baffe, deviennent une violence. Apprendre à questionner les mots, c'est apprendre à les penser, c'est réaliser que les mots sont lourds de sens. J'adore l'expression « j'aime à toi ». Quand on dit « je t'aime », c'est une manière de dire « je te possède ». Tu es à moi, je t'aime, je t'approche de moi. Le mot qui dit « je pense à toi » et d'arriver à dire « j'aime à toi » au lieu de dire « je t'aime », c'est-à-dire d'aimer l'autre dans son entière liberté, voilà une façon formidable de questionner les mots. Luce Irigaray nous a appris à dire « j'aime à toi ».
Aimer de manière désintéressée.
Oui, passionnément intéressée, mais intéressée à l'autre. Ouais. Intéressé à soi, pas dans la dépendance, mais dans l'amour de l'autre pour ce qu'il est réellement. C'est qu'un exemple de question des mots, il y en aurait bien sûr des millions.
Ne présente jamais le mariage comme un accomplissement, jamais.
Oui, donc moi je suis fondamentalement contre le mariage.
Contre ?
Oui, pourquoi ? Je suis pour le mariage pour tous, mais je suis contre le mariage. Alors, parce que je pense que le mariage, aujourd'hui, ne correspond pas à, en fait, ce que les femmes et les hommes ont envie de vivre ensemble, et notamment ce que les femmes ont envie de vivre. Le mariage est une institution sociale voulue par la société qui légitime, à un moment donné, l'existence d'un couple. Les mariages sont en général des fêtes organisées pour les autres et non pas pour le couple qui se marie, pour valider socialement une union. Et le mariage, le plus souvent, est un mauvais contrat. Il n'y a qu'à voir comment les mariages se terminent. Quand on brise le contrat, c'est en général un désastre, ce qui prouve que le contrat a été mal fait. Parce que quand les contrats sont bien faits, le fait de les défaire, ça devrait se passer de façon tout à fait souple et naturelle. Je pense que le mariage est une institution qui est intégrée dans le monde de la religion, des religions monothéistes, qui sont les trois religions monothéistes, des religions absolument négative par rapport à la position égale de la femme par rapport à l'homme. Donc, le mariage établit des liens qui sont des liens justement où on demande d'être aidé, on doit être soumis. Et c'est une institution ringarde, vintage et d'autrefois. Et j'attends des jeunes d'aujourd'hui qu'elles et ils inventent de nouvelles manières de vivre ensemble, notamment avec des enfants petits. Mais je pense que le mariage, non, ça ne va pas du tout. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que dit Chimamanda, mais elle dit... C'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi. Donc, n'en faisons pas un début, parce qu'en fait, en entrant dans le mariage, on entre dans cette espèce de fin en soi qui devient une fin de soi.
D'accord. Apprends-lui à ne pas se soucier de plaire, être elle-même avant de plaire.
Parce que, on pourrait dire, c'est comme ça que, éventuellement, on peut plaire. Et la notion, justement, de la femme qui doit plaire, qui doit être belle, qui doit porter cette magnifique robe blanche, qui doit séduire tout le monde, c'est tellement loin de ce qu'on est réellement. C'est pas ça. Donc, c'est là aussi où j'adore l'idée de la désobéissance. Salis ta robe, enlève ta robe, ne cherche pas à plaire, c'est pas le but. Le but n'est pas d'être un objet du plaisir de l'autre. En apprenant à la fille à plaire, on la met dans la position où elle devient un objet plaisant, un objet du désir. Et les jeunes femmes sont ensuite complètement obnubilées par cette idée terrible qu'il faut être désirée, parce qu'il faut plaire. Mais c'est nous, les mères, qui inculquons ça aux petites filles depuis toutes petites. C'est la société. Comment on fait ou comment on défait ?
Ah ben les deux. D'accord. Comment on fait et comment on défait?
Alors on fait avec des siècles derrière nous, où effectivement la femme a été mise dans cette position d'objet du désir. Comment on défait? On rend déjà la petite fille et la jeune femme surtout le sujet de ses propres désirs. Et c'est là d'où vient toute la manière dont j'essaye de promouvoir l'éros, mais l'éros et l'érotisme exprimés par les femmes. C'est-à-dire que la fille, la petite fille qui va vivre ses désirs, qui va pouvoir dire d'abord à elle-même, dans sa tête, de s'autoriser, puis de dire au garçon plus tard, je te désire, tu es l'objet de mon désir. Voilà une inversion qui serait extraordinairement salutaire dans notre société, parce que depuis tout petit, il y a cette idée de la victime potentielle et du prédateur potentiel. Depuis toute petite, on dit aux filles, fais attention à quoi? Aux garçons, parce que les garçons sont quoi? Des prédateurs potentiels. Si on inculquait à nos filles la réalité et le droit au désir et à l'expression du désir, dire j'aime les hommes et je les aime pour des raisons très précises et je les désire pour qu'ils m'apportent du plaisir, ça changerait complètement la position de la femme dans la société. Alors bien sûr, ça peut créer des résistances importantes, ça peut faire peur. Mais en fin du compte, on arrivera à ce que Charles Fourier annonçait déjà au début du XXe siècle, c'est-à-dire que le bonheur de l'homme se mesure au degré de liberté de la femme. Je vous assure que dans un couple, une femme qui peut exprimer son désir par rapport à l'homme, ben franchement, l'homme, il va quand même être beaucoup plus heureux dans ce couple à tous les niveaux, au niveau de l'harmonie du couple et au niveau sexuel, que lorsqu'il est constamment celui qui doit désirer, parce que la fille se place et se pose dans la position de l'objet du désir, l'objet qui plaît.
Offre à ton enfant un sentiment d'identité.
Il existe l'enfant, il existe en tant que lui-même. L'identité, c'est lui en tant que qui il est, avec ses horribles défauts, bien sûr, que nous voyons en tant que mère, on se dit, mais quelle horreur, mais non, je veux pas qu'il soit ou qu'elle soit comme ça, mais je voudrais mon enfant parfait. Mais non, la seule perfection possible, c'est qu'il soit lui-même. C'est ce hors norme que j'appelle constamment de mes voeux, c'est ce féminisme qui est aussi une promotion du masculin, c'est d'être qui on est. Nous d'abord, en dehors de toutes les identités que veulent nous donner la société, l'éducation, les parents. Non, c'est qui je suis. Tu peux être qui tu es. C'est ça que j'aime en toi, mon enfant. C'est qui tu es vraiment. Et j'aime bien retourner cette phrase qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » en disant « Laissez venir à eux les petits-enfants ». Que les enfants puissent réaliser qu'ils sont et qu'ils existent. Ils le savent, mais on les empêche d'entrer en dialogue avec nous par rapport à leur identité propre, leur existence propre. C'est un formidable apprentissage de l'altérité, en fait, d'avoir des enfants. Oui. De ne pas les vouloir comme nous, mais de les vouloir comme eux. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, on arrive à entrer dans le monde de l'autre. Et par l'intermédiaire de cet apprentissage-là, on arrive à entrer dans le monde des autres, en général.
Pèse soigneusement ta façon d'aborder son apparence physique.
Oui, là, on revient à la question du plaire. Ouais. C'est-à-dire que elle veut être bien en chair, elle veut être super ronde, mais ne jamais lui dire « tu devrais faire attention, là, tu grossis un peu trop ». Elle veut avoir l'air d'un garçon manqué, se raser la tête, mais qu'elle fasse ce qu'elle sent devoir faire pour désobéir aux normes sociales et être qui elle est. Alors bien sûr, ça va jusqu'au fait de faire attention à ce qu'on lui offre comme vêtements. Parce que l'apparence physique, c'est beaucoup les vêtements. C'est la manière dont on se crée chaque matin. Donc, au lieu de lui offrir de jolies robes ou d'horribles pantalons ou des baskets ou des chaussures fines, pourquoi ne pas lui demander « Qu'est-ce que tu aimerais ? Comment tu aimerais t'habiller ?» Et lui dire « Ah, mais ça, c'est une super idée. Viens, on va aller chercher et on va trouver ce que toi, tu aimerais mettre. Comment tu aimerais tes cheveux ? Comment tu aimerais être coiffée ?» Et prendre le temps qu'elle arrive à dire comment elle aimerait être coiffée, comment elle aimerait s'habiller. Et là, de nouveau, c'est apprendre d'elle et lui laisser exprimer qui elle a envie d'être.
Apprends-lui à questionner les normes.
Oui. En fait, c'est, d'une certaine façon, c'est un résumé de beaucoup de choses qu'on a dit précédemment. Oui. La norme, c'est cette espèce de prison sociale. Mais il n'y a pas que elle qui doit apprendre à questionner les normes. C'est d'abord nous qui devons apprendre à questionner les normes. Et c'est un questionnement qui est quotidien. C'est une discipline quotidienne. Peut-être que la meilleure manière de lui apprendre à questionner les normes, c'est de se questionner à haute voix devant elle par rapport à nos propres normes et lui demander « Je crois que je devrais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je devrais faire ça ? Ou je ne devrais pas faire ça ? Ou je devrais faire autre chose ?» Donc en fait, je pense que la meilleure manière d'apprendre à une petite fille ou à un garçon d'ailleurs, d'apprendre à questionner ses normes, c'est de se mettre devant lui, dans toute notre fragilité, avec nos propres normes dont on aimerait sortir, ou pas, et nous questionner à haute voix devant lui, ou devant elle, ce qui va immédiatement lui dire « Ah, mais on a le droit de faire ça !» Si maman se questionne sur la manière dont elle se présente au monde, ça veut dire que moi aussi, je peux, parce que ma maman, c'est mon idole, c'est mon modèle, c'est la meilleure. Donc, si elle le fait, je peux le faire.
Parle-lui de sexe et commence tôt.
Oui, les petits-enfants ont un sexe. D'ailleurs, quand ils naissent, c'est ce qu'on regarde en premier. Et puis, on dit c'est un garçon ou on dit c'est une fille. Et c'est là que la séparation commence. Les petits-enfants ont un sexe qu'ils touchent, qu'ils découvrent, dont ils découvrent qu'il est là pour leur donner du plaisir, dont ils découvriront plus tard qu'il est là aussi pour donner du plaisir aux autres. Il y a un extraordinaire tabou par rapport à la sexualité des enfants. La sexualité des enfants, elle existe. Et en parler, c'est pas leur parler de leur sexualité. C'est pas interférer dans leur monde intime. C'est pas mettre des écouteurs, des vidéos pour voir ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Ça leur appartient absolument et c'est leur jardin secret. Mais de nouveau, leur parler de sexe, c'est parler d'abord de nous, qui sont les parents qui parlent de sexe à leurs enfants. De leur rappeler, ben moi, quand j'avais ton âge, je faisais ceci ou cela, ou j'aimais ceci ou cela, ou j'ai vécu ceci ou cela, ça c'était bien, ça c'était pas bien du tout. Le sexe, il commence pas à l'adolescence, il commence bien avant. Donc, très tôt, parler de sexe, mais pas les interroger sur leur sexe à eux, parce que ça, c'est leur jardin secret. Mais de nouveau, pour qu'ils puissent en fait grandir avec leur sexe et non pas en ignorant leur sexe dans quelque chose qui est absolument caché et tabou, leur parler d'une autre, mais avec délicatesse, bien sûr, de notre vie, par exemple, avec notre sexe en tant qu'enfant. Comment c'était quand on avait leur âge ? Je pense que c'est quelque chose qui allégerait de beaucoup le poids de le poids du sexe et de comment il est montré. Et puis, évidemment, parler de sexe, ça veut dire aussi parler de ce que les enfants voient. Parce que tous les enfants, même les plus protégés, aujourd'hui voient le sexe sur Internet. C'est une illusion de penser que on arrive à éviter cela. Un jour ou l'autre, ça arrive. Donc, leur parler de sexe d'une manière belle, d'une manière poétique, d'une manière qui puisse les faire rêver, d'une manière qui leur dise que derrière, à côté, devant le sexe, il y a une rencontre de l'autre, il y a une transcendance, il y a une union tellement magnifique qu'elle peut finalement aboutir à la création d'un autre être vivant. Enfin, c'est sublime, c'est splendide. Et ainsi, pouvoir leur dire ce que tu vois sur Internet, c'est un aspect, mais il y a tant d'autres choses. Et là, les mots, les livres, la poésie érotique peuvent être des moyens de communication délicats par rapport à la sexualité, et les enfants et les adolescents, qui, je pense, sont une richesse à explorer.
L'amour finira par arriver, alors arrange-toi pour être là.
Alors là, c'est peut-être la seule phrase où je ne suis pas forcément d'accord avec Chimamanda, parce que je pense que quand l'amour arrive, si l'enfant va bien, il a bien grandi, arrive l'amour, c'est à lui. Ça lui appartient et au contraire, éloigne-toi discrètement, laisse vivre ce qui va se vivre parce que ça ne nous appartient pas en tant que parents. Ça appartient à l'enfant, à l'adolescent, ça appartient à l'autre. Alors, une des manières dont j'ai essayé de gérer ce fait de, entre guillemets, être là, avec mes filles, c'est en fait de leur suggérer de plutôt vivre l'amour, les premières amours dans leur maison, pas dans ma maison, dans leur chambre, plutôt qu'ailleurs. Parce qu'il y a là le fait d'être à la maison, y a une protection supplémentaire, mais pas du tout comme une obligation, mais vraiment comme une proposition ouverte et qui doit être évidemment faite de manière suffisamment ouverte pour que la fille sente qu'elle peut effectivement vivre ça sans que la maman soit présente, mais dans cette ère de protection. Mais l'amour, ça lui appartient. Nous, l'amour avec elle, c'est notre amour pour elle. C'est tout ce qu'on... ou pour lui, bien sûr. C'est notre amour pour cette merveille qui est en train de s'éveiller à l'amour de l'autre. Mais à partir du moment où cet amour-là appartient, c'est que, voilà, on est dans l'âge de l'interaction. On est dans l'âge de l'amour et donc dans l'âge adulte.
Fais attention à ne pas faire des opprimés des seins.
Ouais. Les femmes de par le monde sont extraordinairement opprimées. Elles font l'objet de violences intolérables, inacceptables. En France, encore aujourd'hui, il y a deux à trois femmes par semaine qui meurent de violences conjugales. En Suisse, c'est une à deux par mois, parce qu'on a une population moindre. En Uruguay, qui n'a que 3 millions d'habitants, c'est 4 femmes par semaine qui meurent de violences domestiques. C'est intolérable. L'oppression des femmes par rapport à la violence domestique, mais par rapport à 1000 autres types d'oppression, est intolérable. Et nous devons trouver tous les jours de nouvelles pistes pour changer ça. Des pistes pour comprendre la violence des hommes, et la première partie de mon livre essaye d'aborder cette question-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de féminisme et de la position des femmes dans le monde sans parler de cette violence. D'où vient-elle? Comment est-ce que nous pouvons la changer, la transformer, transformer la violence en joie de vivre ensemble? Donc, le fait que nous soyons des opprimés est une réalité historique absolue, même si aujourd'hui, ici, nous ne le sommes pas ou à peine. Mais nous ne sommes pas des saintes. Donc, le fait d'être violentée ne fait pas de nous des saintes. Elle fait de nous, et surtout des femmes qui ne le sont pas, des êtres entièrement responsables de cette situation et qui devons nous battre la contre. Mais les saints, en général, subissent, ils ne se battent pas, et c'est cela qu'elle veut dire, Chimamanda. C'est pas que on ne doit pas reconnaître l'oppression, mais on doit essayer d'en sortir autrement que par la sanctification de l'oppression, mais par la bataille. Par la bataille pour notre égalité, qui est une bataille qu'on conduit pour nous et pour les hommes. C'est affreux d'être un homme violent. Donc, en fait, cette bataille que nous voulons conduire contre l'oppression, elle est pour le monde entier. Et il faut la conduire. Vous qui écoutez ce podcast, vous êtes vivante. Donc, nous sommes vivantes, nous pouvons faire des choses. Vous, vous faites Blooming You, moi, j'écris des livres. Chacune à sa mesure. Chacune doit faire ce qu'elle a à faire et ce qu'elle peut faire, en dehors totalement de l'idée que nous soyons des saintes.
D'accord. Éduque-la à la différence.
Nous sommes tous différents. Nous sommes tous des féministes, mais nous sommes tous différents, différents et différentes. Et reconnaître sa propre différence est la meilleure manière de reconnaître la différence de l'autre. C'est-à-dire que si on reconnaît qu'on n'entre pas dans une case préétablie, une case sociale bien définie de la petite fille sage, bien élevée, bien comme il faut, mais et qu'est-ce qu'il y a comme place pour les autres dans cette case-là? Il n'y a pratiquement pas de place. Si on s'affirme comme différent, eh bien, il y a la place pour la différence de l'autre. Et éduquer les enfants à leur propre différence, c'est les éduquer à la différence du monde. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement important de pas tolérer les gens différents. Non, c'est pas assez de les aimer, de les respecter, de les découvrir comme une richesse absolue. Et donc, si vous éduquez votre enfant à sa propre différence, à affirmer sa différence, à aimer ses différences, vous allez ouvrir pour elle et pour lui le monde de la différence dans le monde.
Eh bien, on peut. Est-ce que, enfin, je veux dire, on vient de finir les 15 préceptes pour une éducation féministe.
Oui.
Mais bon, moi, je suis maman de deux petits garçons et c'est un peu, enfin, ce que j'ai envie de leur transmettre. Enfin, c'est même beaucoup. Enfin, oui. Je veux dire, pour moi, c'est l'éducation d'un enfant.
C'est l'éducation d'un enfant, mais bien sûr, c'est les préceptes d'éducation de la petite fille de Chimamanda, c'est de sortir la petite fille de la case petite fille et de la mettre dans la case enfant avec les garçons et tout ce qui est là, bien évidemment, s'applique aux garçons.
Et ce qui est profondément humaniste.
Bien sûr, parce que le féminisme, il est un humanisme. L'idée, c'est, on veut pas renverser les choses et tuer 2 à 3 hommes par semaine dans le monde domestique, c'est pas le but. Le but, c'est d'être humaniste, c'est de s'aimer soi-même et d'être qui on est pour que l'autre puisse être qui il est dans toute cette myriade de différences. C'est ça, l'humanité, c'est ça. On est la moitié de l'humanité. Je termine mon livre en disant, nous sommes la moitié du ciel. La moitié. Et nous voulons l'autre moitié aussi. Donc oui, filles et garçons, ensemble, et tous ces préceptes de Chimamanda s'appliquent bien sûr aux garçons.
Comment vous imaginez le féminisme de demain, en 10 ans, qu'est-ce que vous espérez pour les femmes dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'espère d'abord une diminution très importante de cette violence qui tue les femmes et dont nous ne voulons pas. J'espère. Je pense que le travail à faire pour en arriver là est extrêmement difficile, extrêmement long, suppose des approches totalement différentes, comme par exemple la création de ces centres pour hommes violents. À Besançon, on en parle aujourd'hui dans la presse, en fait, réapprendre aux hommes qu'il y a d'autres manières d'interagir avec le monde que par l'intermédiaire de la violence. Ça suppose de changer totalement l'image que nous avons du petit garçon qui va devenir un héros français, donc un héros violon. Et j'essaye de travailler sur cette question-là, de comment est-ce qu'on fait pour créer des images de héros qui soient bons, qui soient aimants, mais qui soient des héros, parce que on a besoin de héros. Et puis, j'imagine que dans 10 ans, en fait, l'immense majorité des femmes s'aiment les unes les autres. Ce n'est pas un message œcuménique, mais vraiment que l'amour et la compréhension que nous avons les unes des autres soient démultipliés au détriment de la critique. Et là, évidemment, mon âge, j'ai 69 ans, est un outil, est un atout. C'est un atout parce que je ne suis plus du tout dans une position de compétition par rapport aux autres femmes. Donc, j'essaye de trouver des manières que je puisse transmettre aux toutes jeunes femmes, notamment, en fait, de ne pas se sentir, parce qu'elle n'est plus dans cette position de devoir plaire et de devoir donc plaire plus que l'autre, mais d'être dans la position où elle aime l'autre, la femme et l'homme, de développer des outils d'entente, de soutien réciproque. Et j'aimerais à cet égard citer le site des Glorieuses, qui je trouve est très dans cet état d'esprit-là. C'est que chaque féminisme individuel est un vrai féminisme. Et finalement, je pense que la politique de demain, elle est entre les mains de chaque individu, et que chaque individu est irremplaçable, et que c'est à chacune d'entre nous de faire fleurir ce féminisme de demain.
Eh bien, merci Barbara Pola.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Et à bientôt. À bientôt sur les routes du féminisme.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je rappelle le titre du dernier livre de Barbara Pola, Le nouveau féminisme, combat et rêve de l'ère post-Weinstein, aux éditions Odile Jacob. Rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription complète de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour d'autres découvertes et je vous souhaite tout le meilleur.